Nous sommes aujourd'hui le dimanche 10 Adar Bet et nous sommes le 17 mars. Nous allons continuer le cours que nous avons commencé jeudi dernier à partir d'un Mahamar de Chassidut qui explique bien évidemment l'aspect profond, caché de la fête de Pourim. En vérité, je viens de dire une bêtise parce que ce n'est pas un Mahamar qui explique toute la fête de Pourim, encore moins ce que nous allons expliquer, car on ne peut prendre que quelques minuscules parties de ce Mahamar extraordinaire, immense, d'une profondeur inouïe. Mais malheureusement, nous n'avons que quelques cours et nous ne pouvons prendre que l'ombre de l'ombre de l'ombre de ce que le Rabbi explique. Et malgré tout, comme je le dis toujours, nous n'avons pas le devoir de terminer, mais nous avons au moins le devoir de commencer. Et ceux qui veulent et qui peuvent étudier ce Mahamar seul ou avec un maître qui pourra leur expliquer chaque partie de ce Mahamar, alors peut-être ils pourront se servir des quelques clés que je donne dans mes explications pour le comprendre mieux encore. Quoi qu'il en soit, je voulais juste répéter avant de commencer le cours que cette semaine, donc c'est la semaine de Pourim, nous sommes très 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 occupés. Il y aura cours donc aujourd'hui, ce matin, et demain le cours de chez K1. Et mardi, encore un cours, Be'ezrat Hashem. Et après c'est fini parce que mercredi déjà on est la veille de Pourim et on rentre donc toute la fin de la semaine, qui serait une période de fête. La semaine prochaine, je serai absent, enfin je serai en Israël et très très occupé, 24 heures sur 24, mais je serai absent devant l'écran parce que je reçois un groupe d'élèves Bnei Adam ici en Israël pour un long séminaire d'une semaine. Nous allons sillonner toute la terre d'Israël avec bien sûr la découverte d'endroits fabuleux et surtout des explications extraordinaires. Sur chaque endroit que nous allons visiter, nous allons pratiquement rester 24 heures sur 24 ensemble pendant une semaine, du dimanche au dimanche. C'est le premier séminaire que nous organisons avec nos élèves Bnei Adam et Baruch Hashem. Beaucoup, beaucoup de monde s'est inscrit pour ce premier séminaire. Et donc, c'est un signe de réussite d'une certaine manière et ça sera bien évidemment le premier d'une longue série et nous continuerons tous les ans à organiser, peut-être même deux fois par an, à organiser ce genre de séminaire. Donc quoi qu'il en soit, toute la semaine prochaine il n'y aura pas cours puisque je serai pris avec mes élèves ici en Israël. Alors on va commencer le Mahamar. Et je veux juste bien évidemment un petit résumé. On avait expliqué que finalement, dans cet exil et la situation qui précède le décret d'Aman de vouloir anéantir Israël, le peuple juif se trouvait dans un état d'exil intérieur, surtout intérieur extrêmement, extrêmement profond, au point qu'il n'était même plus conscient qu'il était en exil. Et nous avons commencé à expliquer ce que signifie dans le Mahamar le fait de ne même plus savoir que l'on est en exil, c'est-à-dire d'une certaine manière, comme on le voit clairement au début du texte de la Megillat Esther, le peuple juif dans cet exil de Perse, c'était très différent dans l'exil de Babylone, juste avant, mais dans l'exil de Perse, les juifs finalement jouissaient d'une liberté, d'un bien-être matériel et spirituel énorme, ce qui fait que finalement ils avaient complètement oublié qu'ils étaient en exil. D'ailleurs, ces deux exils, l'exil de Babylone et l'exil de Perse, sont le symbole de toutes les formes d'exil qu'Israël va traverser dans son histoire, des exils douloureux dont le modèle est Babylone, des exils très heureux dont le modèle est la Perse. Mais ce qui est extraordinaire, ce qui est absolument fabuleux, c'est que c'est précisément à la suite d'un exil doux et agréable, que finalement se lève celui qui voudra nous anéantir. Et c'est malheureusement, malheureusement, tellement, tellement, tellement plus précis que la science, qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour confirmer qu'effectivement la Torah ne s'est pas trompée. La montée du nazisme en Allemagne et les décrets d'Hitler de vouloir anéantir le peuple juif, toute cette période-là donc est précédée par des décennies d'un exil qui était devenu très 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 doux, au point que finalement, et surtout les juifs allemands avaient complètement oublié qu'ils étaient en exil, en ce sens qu'ils s'assimilaient avec une telle facilité, avec une telle aisance, que si on leur avait dit qu'ils sont en exil et qu'il faut partir, et bien évidemment, ils auraient pris pour un fou furieux celui qui les aurait mis en garde, ou qui leur aurait dit que malgré tout, ils sont en exil et il faut qu'ils cherchent à quitter cet endroit. Parce que, comme on le sait, les quelques décennies qui ont précédé la Shoah, dans toute cette partie de l'Europe, mais surtout en Allemagne, plus que partout ailleurs, les Juifs bénéficiaient finalement d'une tolérance, d'une acceptation unique dans toute l'Europe. Et c'est vraiment le dernier endroit où on se serait attendu que puisse monter le nazisme. Malheureusement, tout était déjà écrit, tout était déjà prévu. Malheureusement, ça fait des siècles et des siècles qu'on étudie la Torah, mais malheureusement, on ne sait pas l'étudier. C'est-à-dire que quand la Torah nous transmet des enseignements d'une puissance, d'une véracité inimaginable, rares sont ceux qui les voient, même si on étudie énormément la Torah. Et c'est quelque chose d'absolument incompréhensible, comment depuis des millénaires, le peuple juif revient sur les mêmes erreurs et n'apprend pas de l'histoire. Je ne parle même pas d'apprendre de la Torah, parce que tout est clair, tout est dit dans la Torah. Mais apprendre de l'histoire. Et on voit aujourd'hui, encore une fois, après la Shoah, que tout recommence comme si rien ne s'était jamais passé. Les communautés juives aux États-Unis, les communautés juives en Europe, où finalement, heureux comme un juif en exil. Et c'est précisément dans ce genre de situation, heureux comme un juif en exil, que se préparent les pires catastrophes. Et tout ça, c'est le modèle, bien sûr, de ce qui se passe en Perse, puisque la Torah est le plan fondamental, plus précis encore que la science, le plan fondamental de toute l'histoire du monde et surtout de l'histoire du peuple juif. Sachez que quand tout va bien, c'est là que se préparent les pires des catastrophes. Et donc, c'est la situation, encore une fois, en Perse. C'est la raison pour laquelle le rabbi explique que l'expression « balayla ahou », c'est-à-dire que la nuit était complètement cachée. Non seulement on était dans une nuit totale, puisqu'on est en exil, et un juif qui n'est pas sur sa terre est dans une obscurité totale, mais en plus, l'obscurité était cachée au point, c'est les mots que le rabbi utilise, ils ne sont pas de moi, que chez Samim Rocher les Ors, qu'ils en étaient arrivés à transformer l'obscurité en lumière. Ça veut dire presque se sentir mieux encore en Perse qu'à Jérusalem. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé aussi sur le plan historique, puisque n'oublions pas que quelques années auparavant, le roi Cyrus, le premier roi de Perse qui avait donc sauvé, libéré Israël de l'exil de Babylonie, en détruisant la Babylonie, pas pour les Juifs, mais entre autres les Juifs en ont profité. Et donc la première chose que le roi Cyrus fera, c'est d'ordonner aux Juifs de quitter la Babylonie, maintenant qui est sous domination perse, de quitter la Babylonie, de rentrer en Israël, de reconstruire Jérusalem, de reconstruire le Temple, et ce sont des versets explicites, où le roi Cyrus leur dit « Je vous donnerai tous les moyens dont vous avez besoin, de l'argent, une armée pour vous protéger pendant que vous reconstruirez votre pays. » Et donc, quelque chose absolument unique dans l'histoire. Un roi non-juif qui propose de donner de l'argent, des soldats, pour que les juifs puissent reconstruire leur terre. Ça ne s'est pratiquement jamais vu dans l'histoire, en tout cas pas d'une manière aussi absolument incroyable. Et malgré tout, il n'y a qu'une très 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 petite partie d'Israël qui accepte de quitter la Babylonie perse pour rentrer en Israël. Pourquoi ? Parce que depuis que les Perses se sont emparés de tous les endroits où les Juifs souffraient avant la victoire des Perses, tout d'un coup, leur vie est transformée en véritable paradis. il prospère, il réussit dans tous les domaines, sur le plan matériel, sur le plan spirituel. Donc ils ne veulent plus du tout rentrer, en se disant, bon, ça fait des années qu'on souffrait sous le régime babylonien, maintenant on a un petit peu de répit, profitons-en. Et donc, c'est ce qui se passe, c'est la raison pour laquelle quand Ezra va essayer de rassembler autour de lui ceux qui veulent quitter la Babylonie perse, il va se retrouver avec quelques milliers de personnes. Et les millions restent en Babylonie. Et le temple est reconstruit par cette minorité, et pendant toute la période du deuxième temple, jusqu'à l'exil de Rome, finalement, une très 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 petite minorité de juifs vivait en Israël. La grande majorité n'avait pas rejoint Ezra et avait commencé à partir de la Babylonie perse. La majorité sont restés là-bas, mais ils ont commencé une grande partie finalement à se partir dans d'autres endroits. Et c'est là que l'exil a véritablement commencé. C'est-à-dire que finalement, l'exil n'a pas véritablement commencé avec le quatrième, avec l'exil de Rome. L'exil avait déjà commencé avec l'exil de Babylonie et on n'est jamais véritablement sorti de cet exil-là. Donc quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on a expliqué la dernière fois, et comme quoi finalement, lorsque le peuple juif transforme l'obscurité en lumière et se sent très très bien en exil, c'est là qu'il prépare les pires des catastrophes qui risquent de lui tomber sur la tête. Et on va continuer maintenant. On est dans le deuxième chapitre, bien évidemment, mon cœur saigne et pleure de savoir qu'on ne pourra pratiquement rien expliquer, on n'a pas suffisamment de temps, mais bon, on essaye de toucher les points les plus importants. On va lire un petit peu. « Umamshir de Mahamar », le Mahamar continue et dit « Des Echeba Laila ou Nadeda Shnata Meler, Malko Shel Olam » qu'on a expliqué que tout était parti sur le verset qui dit que « En cette nuit, le roi n'est pas arrivé à dormir », et le roi fait allusion, bien évidemment, pas seulement à Achashverosh, mais au maître du monde, qui, d'une certaine manière, refusait de dormir. Il a cassé la nuit, d'une certaine manière, la nuit de l'exil. Je tiens juste à faire remarquer, parce que c'est très important, et on le verra encore une fois par la suite, qu'il n'est pas dit que le roi s'est réveillé, comme dans un autre verset qui dit « Ine lo yanun ve lo yishan ». Il ne dort pas, il ne somnole pas. Ou bien d'autres versets qui disent « Itoreri, itoreri, réveille-toi, réveille-toi » ou des versets qui disent clairement que le maître du monde se réveille pour qu'il puisse y avoir la délivrance. Ici, ce n'est pas le cas. Simplement, il est dit « Nodedo shnata meler ». Ça veut dire que finalement, il ne s'est pas laissé s'endormir. Mais ça ne veut pas dire qu'il était véritablement éveillé. C'est très très important cette nuance-là. Parce que même dans un autre verset qui dit « Iné loyanud ve loyishan », il ne dort pas. C'est vrai qu'il n'est pas dit non plus « il est éveillé » parce que l'éveil fait allusion à la délivrance. Et le verset qui dit que Dieu ne dort pas fait aussi allusion au fait que Dieu nous protège pendant l'exil. Et malgré tout, on est en exil. Mais là, c'est encore un niveau en dessous. « Nadedash natameler » tout le monde, celui qui comprend l'hébreu, comprend que ça veut dire que finalement, il faisait tout pour ne pas s'endormir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne dormait pas du tout et encore moins qu'il était réveillé. Malgré tout, on a commencé à voir dans le précédent cours que c'était en soi un miracle fabuleux parce que dans la mesure où le comportement d'Hachem en haut dépend de notre comportement à nous en bas, dans la mesure où nous on était complètement endormis au point de penser qu'on n'était pas endormi du tout, ça veut dire on était comme quelqu'un qui dort et qui rêve qu'il est éveillé et qui ne se rend même plus compte qu'il est en train de dormir et de rêver. Donc à partir du moment où où Hachem a créé le monde avec des règles bien précises, que son comportement est directement lié au nôtre, si nous dormons au point de ne même plus sentir que nous dormons, comment lui en haut essaye de lutter contre le sommeil? D'ailleurs, on comprend pourquoi il essaye de lutter contre le sommeil, parce que normalement, il est lié aux propres règles qu'il a lui-même créées et gravées dans son monde. Et si vous dormez, je dors. Donc finalement, il doit faire un effort pour ne pas dormir. Évidemment, on comprend pourquoi, puisque le peuple juif est à quelques jours de sa première Shoah, dans la mesure où les décrets ont déjà été émis, que toute l'armée de Haman se prépare à détruire Israël. Israël continue à dormir comme si de rien n'était. On va voir quelque chose de fabuleux dans quelques instants. Et donc, il faut qu'Hachem, finalement, s'il veut vraiment sauver son peuple, fasse quelque chose pour ne pas dormir lui aussi, sinon ça va être la catastrophe. Et où est le miracle, encore une fois? C'est que le fait qu'il se force à ne pas dormir va à l'encontre des règles que lui-même a fixées. Si vous dormez, je dors. Alors, bien évidemment, le Mahamar essaye d'expliquer, mais pourquoi finalement va-t-il à l'encontre des propres règles qu'il a lui-même fixées? Pourquoi fait-il un effort pour ne pas dormir, puisque en bas tout Israël dort? Alors là, le texte va dire quelque chose d'assez incompréhensible. Naasé, ça s'est produit, ce refus de dormir en haut, à l'aider à Messirut Nefesh d'Israël, parce que en bas, une grande partie des Bnei Israël était dans une situation de Messirut Nefesh, mot à mot, ça veut dire de don de soi. Ils étaient prêts à donner leur vie, mais mes chers Kol Hashana, depuis le début des décrets, depuis presque un an, et Vetsarir Leavin. Alors, cette phrase est incompréhensible parce que c'est bien sûr quelque chose qui est tiré, une explication qui est tirée des maîtres d'Israël qui disent que depuis le décret, je vais expliquer bien sûr, depuis les décrets qu'Aman avait formulés, où clairement il avait annoncé la destruction d'Israël, une grande partie d'Israël s'était réunie autour de Mordechai, mais Messirut Nefesh. Alors Messirut Nefesh, c'est très difficile à traduire, don de soi, c'est pas qu'ils avaient pris des armes et ils étaient prêts à se battre, puisque évidemment, ils n'avaient ni armes, ni possibilité de se battre, ni même possibilité de se protéger, et comme les Juifs pendant la Shoah. Donc, c'est quoi cette Messirut Nefesh? Alors, il faut le comprendre sur un plan plus spirituel, que Mordechai est arrivé à réveiller, si j'ose dire, des milliers de Juifs et les a amenés à se renforcer dans la confiance en Dieu, dans surtout dans l'accomplissement encore plus rigoureux des commandements, dans l'étude de la Torah, dans la prière. Et alors que, comme l'enseignent nos maîtres, parmi les décrets que Aman avait formulés, il y en avait un aussi qui interdisait le rassemblement des Juifs pour étudier la Torah ou pour prier ensemble ou pour accomplir ensemble les commandements. Et c'est dans ce domaine-là qu'on parle donc de Messirut Nefesh, de don de soi, parce qu'il savait qu'il se mettait en danger, parce que la police de Aman sillonnait tous les quartiers juifs pour voir si les synagogues étaient fermées, si les centres d'études étaient fermés. Et ils ont vu tout le contraire. Ils ont vu que les juifs ne tenaient absolument pas compte du décret qui les interdisait de se réunir pour prier, étudier la Torah et accomplir les commandements tous ensemble pour qu'il y ait plus de force, plus de motivation. Et donc les synagogues étaient pleines, les centres d'études étaient remplis. Et les policiers rentraient, ils voyaient ce qui se passait, et les juifs n'arrêtaient ni de prier ni d'étudier, en sachant que peut-être que c'était leur dernière prière, leur dernière étude, parce que l'armée allait venir et les exterminer. Malgré tout, ça ne s'est pas produit, parce que comme Aman, d'une certaine manière, était pratiquement certain que de toute façon, à la date qu'il avait fixée, il allait exterminer tout le monde, bon, il n'avait pas envie de faire des actions ponctuelles dans cette synagogue ou dans ce centre d'études. Il s'est dit, de toute façon, je vais tous les liquider le même jour, le jour que j'ai fixé pour détruire toutes les communautés juives de Perse. Et donc, c'est vrai qu'il n'est pas intervenu avant, mais ça, les juifs ne pouvaient pas savoir s'il va oui intervenir ou pas intervenir. Donc à chaque fois que les juifs se réunissaient dans une synagogue ou dans un centre d'études, ils savaient très bien qu'ils mettaient leur vie en danger. Et malgré tout, ils l'ont fait. Et donc, le Mahamar explique, par le mérite qu'en bas, il y a eu malgré tout une sorte de réveil, puisque au moins dans le seul domaine qui était à leur portée, le fait de se renforcer dans la Torah, dans ce domaine-là, ils l'ont fait, et donc c'est ce qui a provoqué finalement, le réveil, ou c'est pas vraiment un réveil, comme j'ai déjà expliqué, mais ce qui a provoqué justement le fait que Hachem, lui-même, a tout fait pour ne pas continuer à dormir de manière à pouvoir protéger Israël et que se produise le miracle que finalement tout s'est retourné contre Aman et c'est lui qui a été détruit, lui et son armée et toute sa famille, et Israël qui a été sauvé. Mais regardez ce que dit le rabbi dans un commentaire. Il dit « Benogea l'eklal, l'eklalut anes » Il faut comprendre malgré tout, dit le rabbi, sur ce miracle que Dieu ne s'est pas endormi, Yesh Lomar, il faut quand même préciser, des misés chez Gam Lachare Anes, des prix Mayou Begalout. N'oublions pas que même après le miracle qui s'est produit à Purim, cette retournation, ce retourner de situation où Israël finalement a détruit ses ennemis, malgré tout, Israël n'est pas sorti de l'exil. Après cela, la grande majorité des Juifs ont continué à vivre encore sous le joug perse. Parce que justement, c'était un joug très très agréable, à part cette période des décrets de Haman. Comme il est dit dans le Talmud, Arti Avde Achashverosh Anan, nous avons continué finalement, même après cette victoire, où normalement Israël aurait dû se dire, mais puisqu'on a bénéficié d'un tel signe, d'un tel miracle, que finalement sans armes, sans force, sans rien, on est arrivé à finalement à détruire le pire ennemi d'Israël qui avait avec lui le pouvoir, l'argent, l'armée, il avait tout, et tout s'est retourné contre lui. Normalement, après un tel miracle, les Juifs auraient dû se dire, bon, ça va, on a compris, on s'en va, on rejoint nos frères qui déjà depuis quelques décennies, à l'époque de Ezra, sous le règne de Cyrus, ont déjà quitté l'exil pour essayer de reconstruire leur terre. Je dis bien essayer parce que dans la mesure où la grande majorité ne les a pas suivis, c'était très très difficile. Et surtout quand Cyrus a vu que finalement la grande majorité ne voulait pas quitter l'exil, ben, toutes ces promesses de donner de l'argent, de les aider avec en les protégeant avec sa propre armée, bon, tout ça ne s'est pas vraiment réalisé parce que finalement Cyrus se dit « mais bon, ben, s'ils veulent rester en exil, qu'ils restent en exil ». Donc finalement la communauté juive en Israël avait énormément de mal à s'en sortir, comme on le sait quand on lit le livre de Ezra ou de Néhémia. Et là, c'était l'occasion, donc quelques décennies après un miracle pareil, de se dire « ça va Hachem, on a compris ». On a compris que finalement, les décrets d'Aman sont venus parce que justement, on se sentait trop bien en exil, et que maintenant que tu nous as sauvés, ça va, on va pas recommencer la même bêtise, on s'en va. Et malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Et je dis toujours que la Torah est plus précise que la science, parce que des siècles et des millénaires après, c'est encore une fois la même situation. Après la Shoah, une grande partie, même la majorité des Juifs restent encore en exil. Maintenant, depuis 70 ans, de plus en plus montent. Mais il y a encore pratiquement la moitié d'Israël qui est encore éparpillée un petit peu partout dans le monde. Et après la Shoah, et pendant de nombreuses décennies encore, de nombreuses années encore, la grande majorité était encore en exil, et même en Allemagne. Vous avez une très 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 grosse communauté juive à Berlin. C'est quelque chose que je n'arrive même pas à dire, parce que je crois que je vais m'évanouir quand je le dis. Et fier d'être là-bas d'ailleurs. Il y avait récemment un article que j'ai lu où, bon, je ne veux pas dire qui, quoi qu'est-ce, parce que je ne veux pas m'évanouir de douleur. Mais bon, un article qui présentait les quelques plus belles synagogues dans le monde. L'une d'entre elles était la synagogue de Berlin, que les Juifs fièrement avaient construit et étaient fiers de l'avoir inaugurée avec différents ministres allemands qui étaient venus parler, un petit peu s'excuser, en tout cas exprimer leur fierté de voir la communauté juive de Berlin non seulement fleurir, mais avoir même l'une des plus belles synagogues du monde. Je ne peux pas continuer à parler, parce que sincèrement, je suis en train de me décomposer à l'intérieur. Je ne peux pas, et je ne joue pas la comédie. Bref, on continue. Donc, c'est ce que nous disent nos maîtres. Arti Avdi Achashverosh Anan. Après tout ce qu'on aurait pu comprendre de ce qui s'est passé, que le décret est venu précisément parce qu'on était trop bien en exil. Et que malgré le miracle incroyable qu'Hachem nous fait, exactement comme après la Shoah, En 1945, on sort d'Auschwitz. En 1948, déclaration de l'État d'Israël. Normalement, tout le monde aurait dû se dire, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Allez, on part tous. Non. On continue à être des exilés. Sincèrement, j'arrive pas. J'arrive pas à comprendre. J'ai du mal à terminer ce cours. J'arrive pas. Vous me prenez là sur le vif. Je vous dis franchement, en live, je suis décomposé. J'arrive pas. J'arrive pas à comprendre comment ça fait des millénaires qu'on étudie la Torah et ça fait des millénaires qu'on se fout de la Torah, qu'on la prend pas au sérieux. J'arrive pas à comprendre. Et je parle bien sûr pas des juifs qui sont éloignés de la Torah, parce qu'on ne peut rien leur reprocher. Je parle précisément de ceux qui l'étudient et qui se prétendent des rabbanim, des maîtres. Et... j'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à ce point à se foutre de la Torah. Quelle hypocrisie. Quel mensonge. Et là, tout le monde est en train d'étudier les textes sur la fête de Pourim, et dans les communautés de France, des États-Unis ou partout ailleurs, on explique la fête de Pourim. On se fout du bon Dieu, on se fout de la Torah, on se fout du peuple juif. Parce que ce qu'il faut dire, personne ne le dit. Et on continue cette hypocrisie qui met notre peuple en danger de génération en génération. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Un miracle incroyable et on continue à vivre en Perse. On continue à voir ce que dit le rabbi. Mouchard, de là on comprend. Shegam le'achavesh amdu b'msirut nefesh. Tu comprends de là, dit le rabbi, que même si c'est vrai que pendant un an, ils étaient prêts à donner leur vie pour la Torah, ayu adayim b'matzav shel shena, ça ne les a pas sortis du sommeil. Ils ont continué à dormir, même lorsqu'ils étaient dans cette situation d'être prêts à donner leur vie pour la Torah. Qu'est-ce que le rabbi ici explique? C'est quelque chose de fabuleux. C'est absolument incroyable. Oui, on peut être bemesirut nefesh, on peut être prêt à donner sa vie pour la Torah et malgré tout être complètement en exil et n'avoir rien compris à ce que véritablement le maître du monde demande à un juif, demande à son peuple, et on continue à dormir. Pourtant, je suis prêt à donner ma vie pour la Torah. Non, tu continues à dormir, ce n'est pas de moi, je le répète. C'est pas de moi. Et comment c'est possible? Mais l'explication, je l'ai déjà donnée des dizaines de fois. On peut effectivement être prêt à donner à sa vie, être prêt à donner sa vie pour la Torah en exil, mais continuer à être un juif de l'exil et n'avoir rien compris à la véritable mission d'un juif et au véritable message de la Torah. C'est-à-dire qu'en vérité, tu n'étais pas prêt à donner ta vie pour la Torah, tu étais prêt à donner ta vie pour la religion juive, mais pas pour la Torah, pour la religion juive. Oui. Quand il y a eu les conflits terribles, sanglants entre les catholiques et les protestants, des milliers de protestants ont donné leur vie pour leur foi. Partout dans le monde, lorsque une religion est attaquée par la majorité, qu'elle est minoritaire, et c'est pas seulement la religion juive, on a vu dans toute l'histoire des croyants être prêts à donner leur vie pour leur foi, même pour leurs idées politiques, pas seulement pour leur foi. Bien évidemment. Dans toute l'histoire, et ce n'est pas spécifiquement juif, un homme sincère qui croit en ce qu'il croit est prêt à donner sa vie pour ce qu'il croit. C'est vrai pour la foi, c'est vrai pour les idéaux politiques. Martin Luther King n'a pas donné sa vie pour sauver la population noire, qui était opprimé, qui était humilié. Non. Et donc on peut très bien comprendre que les religieux juifs fassent la même chose pour leur religion juive. Mais ça n'a rien à voir avec la véritable prise de conscience de ce que c'est la Torah. La Torah n'est pas une religion. La première parole qu'Hachem adresse à Abraham, c'est « va vers la terre que je t'indiquerai ». Comme je l'expliquais déjà dans des dizaines de cours, lorsque Hachem s'adresse à Moshe, le premier libérateur, et il lui dit ce qu'il faudra dire aux enfants d'Israël, il ne lui parle jamais, 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 jamais du don de la Torah. La seule chose explicite qu'il lui dit, va dire aux enfants d'Israël que je vais accomplir la promesse faite au Père, je vais faire de vous une nation sur sa terre. Le seul véritable, unique projet de la Torah, c'est de faire de nous une nation sur notre terre. Maintenant, le moyen d'y arriver, les instruments pour y arriver, sur le plan spirituel et moral, c'est l'accomplissement des commandements et tout ce que cela signifie. C'est le moyen, c'est pas le but, comme je l'expliquais dans une dizaine de cours. Nous ne pouvons pas devenir la nation d'Hachem sur notre terre sans la Torah. Mais c'est pas la Torah le but, la Torah est le moyen d'accomplir le but qui est de devenir une nation sur notre terre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en Perse? Les Juifs étaient prêts à mourir pour la Torah. Mais pour la Torah en tant que religion, comme un musulman est prêt à mourir pour le Coran, comme un protestant est prêt à mourir pour sa foi, comme un catholique est prêt à mourir pour sa foi, et comme un communiste est prêt à mourir pour sa foi, comme n'importe quel idéaliste est prêt à mourir pour sa foi. Ça n'a rien de spécifiquement juif. Nous sommes de très 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 loin les seuls à être prêts à mourir pour notre foi. C'est un phénomène humain connu et reconnu dans le monde entier. C'est ça ce que nous explique ici le Rabbi. Ils ont continué à dormir malgré le fait qu'ils étaient prêts à mourir pour la Torah. Ils étaient prêts à mourir pour une religion, pas pour la Torah. Parce que partout dans le monde, la Torah n'est plus la Torah. Elle est uniquement une religion, comme une autre. Le seul endroit où la Torah deviendra ou redeviendra la Torah, c'est lorsque nous serons une nation qui se reconstruit sur notre terre avec la Torah. Mais en dehors de notre terre, ça ne peut être au plus qu'une religion. Alors maintenant, on comprend la suite de ce qu'explique le Rabbi. Il dit, Are Bezman chez Israël Osim Retsono Shel Makom. Il va poser la question suivante. Tsaril Leavin, je voudrais comprendre. Are Bezman chez Israël Osim Retsono Shel Makom. On a un principe fondamental, quand Israël fait la volonté d'Hachem, il est dit, Iné Loyanun Velu Ishan. Alors Hachem cesse complètement de dormir. Et puisque on vient de dire que les Juifs étaient prêts à donner leur vie pour la religion juive, pourquoi on en fait tout un plat et on dit il y a eu un miracle, Hachem a refusé de dormir cette nuit-là? C'est incroyable ce que le Rabbi cache derrière ses questions et ses enseignements. Le Rabbi ici donne la réponse à sa manière, à ce que j'ai expliqué. Ou plutôt, ce que j'ai expliqué, c'est bien évidemment parce que j'ai compris ce qu'il dit. Il dit, pourquoi on dit que c'est un miracle, c'est absolument incroyable au point d'élever la voix quand on dit ce verset, quand on lit la Megillah le soir et le matin de Pourim. On en fait tout un plat. Mais le Rabbi dit, mais attends, je ne comprends pas, mais si vraiment ils étaient prêts à donner leur vie pour la Torah, c'est normal que Hachem les a sauvés. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est de la même manière qu'il y a un principe fondamental que le maître du monde a fixé dans la création du monde. C'est que selon votre comportement, je me comporte dans le bien comme dans le mal. Si vous dormez, je dors. Si vous vous réveillez, je me réveille. Donc, ce n'est pas un miracle, dit le Rabbi. C'est clairement ses mots. Il dit, Mahouanès, pourquoi parle-t-on de miracle? Ce n'est pas un miracle. Ça fait partie des règles que le maître du monde a fixées dans la création de son monde. Ce n'est pas un miracle lorsque tu lâches une pierre qu'elle tombe vers le bas. C'est pas un miracle quand tu mets ta main dans l'eau qu'elle est mouillée, quand tu mets ta main dans le feu qu'elle est brûlée. C'est pas un miracle. De la même manière, dit le rabbi, c'est pas un miracle que Hachem nous sauve lorsqu'on est méritant. Alors où est le miracle? Alors on a commencé à l'expliquer en lisant ce petit paragraphe qui est en dessous du texte où le rabbi précise certaines notions. Il dit parce que la preuve que c'était pas véritablement... Ils n'ont pas véritablement fait la volonté d'Hachem. Ils étaient prêts à mourir pour leur foi, pour leur religion. Mais être prêt à mourir pour sa religion, ça n'importe quel homme peut le faire et doit le faire sur terre. Ça n'a rien de spécifiquement juif. Donc ils n'ont pas véritablement fait la volonté d'Hachem. Et ce n'est pas encore une fois pour la Torah qu'ils étaient prêts à mourir, mais pour leur religion juive. Et la religion juive n'a rien à voir avec la Torah. Strictement rien à voir. Voilà ce que le rabbi nous révèle ici. Et donc on comprend pourquoi c'est un miracle malgré tout. Parce qu'Hachem aurait pu leur dire, attendez, mais moi je ne vous ai pas donné une religion, je vous ai donné la Torah. Dans la Torah, il est dit que vous devez être une nation sur votre terre, vous voulez rester en Perse. Alors, pourquoi je vais me réveiller moi? Mais disparaissez en Perse, comme ça vous y resterez pour tout le temps, vous serez enterré là-bas. Donc le fait que malgré tout Hachem, lui, a refusé de continuer à dormir alors que eux dormaient, c'est ça le véritable miracle, dit le rabbi. Extraordinaire. Extraordinaire. Qui comprend et qui enseigne la fête de Pourim de cette manière-là? La grande majorité de ceux qui essayent de comprendre ce qui s'est passé passent complètement à côté du véritable message de cette fête. Et la preuve, c'est que des milliers de communautés vont fêter Pourim partout dans le monde et personne ne va se rendre compte là-bas qu'ils sont en train de porter un masque. Alors là, vraiment, on comprend pourquoi on porte des masques à Pourim. C'est un judaïsme masqué, complètement masqué, qui n'a rien de vrai. C'est incroyable. On continue. Je veux maintenant rentrer plus en profondeur. On va lire un passage important. On sait que, selon les codes bibliques et toraïques, le mot « yom », le jour, fait toujours allusion à un dévoilement, par définition, le jour on voit. Le mot « laïla », la nuit, fait toujours allusion à un voile. Cependant, Bechol echad me'em, sache que et dans le jour et dans la nuit, et dans le dévoilement et dans le voile, il y a deux niveaux. Yesh shnei inyanim de gilul ve'elem. Il y a, je ne vais pas tout lire, je lis l'essentiel. Il y a et dans le jour et dans la nuit une notion de dévoilement et une notion de voile. C'est-à-dire on peut avoir un jour dévoilé et un jour voilé. On peut avoir une nuit voilée et une nuit dévoilée. Alors pour la nuit voilée et la nuit dévoilée, ça on l'a déjà expliqué. Une nuit dévoilée, c'est quand je souffre, mais je sais que je souffre. Je suis en exil, je sais que je suis en exil. Je suis loin de la Torah, je sais que je suis loin de la Torah. Je suis loin d'Hachem, je sais que je suis loin d'Hachem. Et dans d'autres domaines, mon couple ne va pas du tout, je sais qu'il ne va pas du tout. Et dans tous les autres domaines de ma vie, j'ai un problème, je sais que j'ai un problème. J'ai un problème, c'est la nuit, mais c'est une nuit dévoilée, je sais que j'ai un problème. C'est déjà en soi le début de la réparation. Maintenant, qu'est-ce que c'est une nuit voilée? J'ai un problème de couple, je ne le sais pas. Je suis loin de la Torah, je ne le sais pas. Je suis loin d'Hachem, je ne le sais pas. Je suis en exil, je ne le sais pas. Maintenant, pour le jour. Qu'est-ce que c'est un jour visible? Eh bien, ça va bien, je le sais. Je suis proche d'Hachem, je le sais. Je suis proche de la Torah, je le sais. Hachem s'occupe de moi, je le sais. Hachem me protège, je le sais. Etc, etc. Mon couple va bien, je le sais. Qu'est-ce que c'est un jour voilé? Eh bien, c'est qu'Hachem est en train de me faire des choses extraordinaires, mais moi, je ne le vois pas. Il est en train de me préparer une délivrance extraordinaire, mais moi, je ne le vois pas. Mon peuple est en plein processus de délivrance, mais je ne le vois pas. La délivrance a déjà commencé, mais je ne le vois pas. Je continue à croire que je suis toujours en exil. Voilà ce que c'est un jour voilé. On comprend qu'en Perse, on était dans une nuit voilée. Parce que même quand on s'est réveillé et qu'on était prêt à mourir pour la Torah, comme je l'ai expliqué grâce au Rabbi, on était prêt, pas prêt à mourir pour la Torah, mais pour la religion juive, ce qui n'a rien à voir avec la Torah. Donc on était véritablement dans une nuit voilée. « Balaïla ha'ou » dit le verset. Maintenant le Rabbi va expliquer, j'ai sauté pas mal de choses, il explique quelque chose d'extraordinaire en ce qui concerne le jour visible et le jour voilé. Il dit, Vezeu Shebegeula de Itziat Mitzrayim, on remarque qu'en ce qui concerne la sortie d'Égypte, il est dit, Be'etzem Ayom Aze, il est dit, ils sont sortis dans ce jour. Et donc, Ayom, c'est-à-dire que la délivrance était claire, puisque c'est dit Ayom, et c'est marqué Aze. Et le rabbi explique, quand il est dit Aze, ça veut dire que c'est visible. Quand c'est marqué « Aou », comme on l'a déjà vu, ça veut dire que ce n'est pas visible. Il y a parfois une expression qui dit « Bayom Aze », ça veut dire « le jour est visible », et une expression qui dit « Bayom Aou », le jour n'est pas visible, c'est-à-dire la délivrance est visible ou elle n'est pas visible. Le rabbi explique « La sortie d'Égypte est sous le signe de « Bayom Aze ». Ça veut dire que tous ceux qui sont sortis étaient conscients véritablement qu'il s'agissait véritablement d'une véritable délivrance dont le meneur, le leader, était le maître du monde. Regardez ce que le rabbi va expliquer. Ube Geoula Atida. Mais pour la délivrance finale, la délivrance que beaucoup continuaient à attendre alors qu'elle a commencé depuis longtemps. Et pourquoi personne ne la voit? Le rabbi lui explique. Khtiv, il est dit, Ve'amar Bayom Ahu. Au sujet de la délivrance finale, il est dit, Bayom Ahu, que la délivrance, le jour sera caché. Ki agilu ishaya ba'geula d'Itziat Mitzrayim, parce que la délivrance de la sortie d'Égypte, elle était visible en bas, alors que la délivrance finale, elle, pendant très longtemps, ne sera visible qu'en haut, mais en bas, on ne verra rien. C'est à pleurer. C'est à pleurer comment le rabbi ici dévoile des choses qui sont d'une actualité qui est plus brûlante que le feu, d'une précision qui est plus précise que la science. C'est absolument incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, effectivement, nombreux sont ceux qui continuent à attendre le Mashiach. Et surtout qu'il continue à penser que rien n'a commencé. Alors que ça fait des décennies que la délivrance non seulement a commencé, mais qu'on est aujourd'hui dans les phases les plus avancées et les plus proches du dévoilement final. Mais nombreux sont ceux qui continuent à attendre que le Mashiach vienne et commence la délivrance. Le rabbi nous prévient, sache que la délivrance finale se fera sur le modèle de Bayom Ahu. Le jour sera là, mais personne ne le verra. Ou seuls ceux qui sont vraiment méritants le verront. Ceux qui sont capables de déchirer le voile le verront. Mais les autres continueront à dire l'an prochain à Jérusalem. Voilà ce que le rabbi explique ici. Je tiens juste à préciser quelque chose d'absolument important. Sur le personnage du rabbi lui-même, il y a tellement de questions qui, d'une certaine manière, contredisent des enseignements incroyables tels que je les explique. Le rabbi lui-même n'est jamais monté en Israël. Pourquoi? Il a des réponses extraordinaires à cela. Mais j'ai volontairement pas envie d'y répondre. Je n'ai pas envie de faire ce cadeau. Je répondrai simplement d'une autre manière, en disant que les grands justes, les grands maîtres, leur vie dépasse la compréhension de 99,9% du peuple. Parce qu'ils sont à un niveau tel que même leur propre vie est incompréhensible, surtout parfois par rapport à leurs propres enseignements. Moi, je n'ai pas de questions. Parce que j'ai les réponses. mais je ne vois pas l'utilité de le révéler aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, c'est fabuleux de voir un homme qui lui-même n'est jamais monté en Israël. Il aurait pu s'y installer, il ne l'a jamais fait, et pourtant il a des enseignements, lorsqu'on a le mérite de les comprendre, qui d'une certaine manière contredisent toute sa vie, bien qu'il n'y a aucune, strictement aucune contradiction pour les quelques 2, 3, 10 personnes dans le monde qui sont capables de comprendre pourquoi il n'y a pas de contradiction. À mon avis, il n'y en a pas plus que 5, 6 dans le monde. Mais quoi qu'il en soit, l'enseignement est fabuleux. La délivrance finale se fera sous le signe de Bayom Ahou. La délivrance sera là, elle sera déjà fortement entamée, mais personne ne le verra. Ou rares sont ceux qui le verront. J'ai déjà expliqué dans de nombreux cours pourquoi. Je n'ai pas envie de le répéter aujourd'hui. J'ai déjà expliqué pourquoi il fallait absolument que, jusqu'au dernier moment où on ne pourra plus l'empêcher, tout sera voilé. Il fallait que ça soit voilé. De toute façon, tout l'avènement messianique est voilé, puisqu'il passe par des chemins incompréhensibles, comme je l'ai déjà expliqué dans de nombreux cours. Mais on comprend donc pourquoi, finalement, la délivrance finale s'appelle Bayom Ahou. Le jour sera là, mais rares sont ceux qui le verront. Et l'exil en Perse s'appelait Balaïla Ahou. C'était la nuit et personne ne la voyait. Ça veut dire que là, la délivrance finale, on parle d'un jour que personne ne voit, enfin que rares sont ceux qui voient que c'est le jour. Et dans l'exil de Perse, on parle de la nuit et rares sont ceux qui voient que c'est la nuit. Ce sont les deux extrêmes finalement. Mais d'un autre côté, comme l'explique le rabbi dans la suite de ce Mahamar, quand on est dans une situation de Ahou, qu'il y a un voile, c'est là que finalement la lumière cachée est la plus grande. Parce que même dans Laïla Ahou, qui était la situation en Perse, la lumière était tellement cachée que les Juifs ne savaient même pas qu'ils étaient en exil, comme on l'a expliqué pendant ce cours. Mais la lumière était fabuleuse, parce que plus le voile est grand dans ce monde, plus la lumière est énorme. C'est aussi l'une des raisons de l'explosion de joie qu'il y a à Pourim, qui dépasse l'entendement. Parce que tout d'un coup, il y a eu comme une sorte de rayon qui a traversé le voile, rayon de cette lumière infinie qui a traversé le voile, et les Juifs ont ressenti une explosion de joie inimaginable. Plus la chose est voilée, et plus elle cache une lumière inimaginable. Le Rabbi explique dans ce Mahamar plus loin, comme je l'ai expliqué déjà au nom du Baal HaTanya dans différents cours, qu'en vérité l'obscurité n'existe pas, c'est simplement une lumière qui est trop forte et qui nous aveugle. Plus la lumière est forte, plus elle nous aveugle et plus on a l'impression d'être dans l'obscurité. Mais la notion d'obscurité n'existe pas, dans le sens profond du terme. C'est ou une lumière que tu vois ou une lumière qui t'aveugle. Et donc précisément lorsqu'on est dans une situation où à nos yeux on ne voit rien, c'est précisément là que se prépare une lumière inimaginable. C'est ce qui s'est passé encore une fois à Pourim, l'explosion inimaginable de joie. Et c'est ce qui se passe et se prépare au moment de la délivrance finale, où précisément parce que nombreux sont ceux qui ne voient rien, parce qu'ils sont complètement aveuglés par une lumière inimaginable, et seule une poignée de méritants arrive à comprendre qu'on est déjà dans les phases les plus avancées de la délivrance finale, et que bientôt le dévoilement visible va se faire. Voilà, encore un cours d'une importance extrême. Au plus profond de moi, j'espère, et c'est le but unique de ce genre de cours, que ce cours arrivera à réveiller quelques Juifs qui sont encore perdus dans la nuit de l'exil et qui ne se rendent même pas compte à quel point ils sont perdus, surtout si tout va bien sur le plan matériel, sur le plan spirituel. C'est précisément ces Juifs qui sont le plus en danger parce qu'ils n'ont aucune raison de se sentir en exil. Que le Maître du Monde fasse que encore et encore et encore et encore, un autre va pouvoir se réveiller, réveiller encore un autre et encore un autre et encore un autre. Que le maître du monde nous protège des décrets d'Aman et que nous puissions très bientôt tous ensemble à la délivrance finale. Amen. Le Régnier Hatson.